There's a huge party. It was a beautiful day. Everyone is on deck. The band is playing. There's children because it's the summertime. There's adults. People are dancing. They're serving canapés. It's like floating all day long in this gorgeous, gorgeous Atlantic Ocean. It was just fabulous. I just can't tell you what a glorious day it was.
You'll never forget how Cunard makes you feel. Visit Cunard.com.
Khadija s'adresse à Mohamed. Non, par Dieu, jamais Dieu ne te plongera dans l'opprobre. Tu préserves les liens de parenté, tu soutiens les faibles, tu donnes aux pauvres, tu héberges les hôtes et tu aides à affronter les vicissitudes de la vie. L'objectif de cet ouvrage est de se dire qu'est-ce qu'on sait de Khadija concrètement et comment on peut s'en inspirer. Et ce que je trouve trop beau, c'est que Khadija, ça a été la première à avoir scellé ce lien-là. Ce qui me fait dire quand je médite dessus qu'en fait, finalement, Khadija, c'est la première croyante en fait.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Environ une fois par mois, j'ai à cœur de vous faire découvrir des ouvrages qui nous emmènent plus loin dans notre réflexion sur le mariage et plus largement sur le sentiment amoureux. À travers des essais, des romans, des livres religieux, on essaiera de comprendre comment aimer mieux, que ce soit dans son couple, dans sa fratrie, et plus largement, dans sa vie. On parle aussi de l'amour qui nous lie à Dieu, parce que, comme vous le savez, c'est LA condition sine qua non pour une vie heureuse. Installez-vous confortablement et préparez-vous à vivre un très bon moment. Bienvenue dans le Halal Book Club. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Et bienvenue dans un nouvel épisode du Halal Love Podcast. Cette semaine, je suis seule derrière mon micro, mais finalement pas vraiment, parce que aujourd'hui, on va parler d'une femme exemplaire, une femme qui m'a touchée dès que j'ai appris à la connaître et que je suis ravie et un peu émue de vous intimider aussi. De vous raconter l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de Khadija, radiallahu anha, qui est donc la première épouse de notre merveilleux prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et du livre qui m'a accompagnée dans la préparation de cet épisode-là, mais également de l'épisode 16 et 17. Ce livre, donc, c'est Khadija, la première femme musulmane, de Claude Dabac. Pour recontextualiser un petit peu les épisodes 16 et 17, c'était des épisodes qui étaient consacrés à l'histoire d'amour entre le prophète, alayhi salatu wassalam, et sa première épouse, Khadija. J'en profite pour passer un grand salam à Farid, qui avait dirigé de main de maître cet épisode. Je vous mettrai évidemment en descriptif, les liens pour les écouter ou les réécouter, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va donc consacrer notre attention et notre intérêt, notre amour aussi, à la découverte de Khadija Kalalagré. C'est notre maman à tous. C'est une lourde tâche, hein, aujourd'hui, qui m'incombe, dont je vais essayer de m'acquitter au mieux. Et je tiens à préciser que si cet épisode vous parle, vous touche, alors toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a des erreurs, eh bien ce seront les miennes. Et je vous en prie, par avance, de m'en excuser. Alors, avant de vous parler un peu de Khadija, je suis obligée de vous expliquer un petit peu comment le coup de foudre a commencé pour moi, parce que ça dit beaucoup sur ce dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah. Khadija, moi, j'ai appris un peu à la connaître, comme tout le monde en fait, dès qu'on s'intéresse un peu à notre religion, on apprend que c'est la première épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle était plus âgée que lui, que c'était une grande commerçante, donc on a déjà des éléments qui nous permettent de l'aimer quand même très très rapidement, particulièrement quand on est une jeune femme née en Occident, etc. Cette idée de la femme musulmane forte qui est très personnifiée en la personne de Khadija, Ibn Khuwaylid, ça nous parle beaucoup. Mais ça, il y a une vraie bascule une fois que j'ai écouté un cher Omar Suleiman qui a une série qui s'appelle The First, et c'est une série disponible sur YouTube dans laquelle il... Enfin, c'est une série de Rodma dans lesquelles il parle des premiers convertis. Donc, évidemment, Khadija ibn Khuwaylid est l'une des premières, si ce n'est la première, mais ça aussi on en reparlera un peu plus tard durant notre conversation, Inch'Allah. Et en fait, très vite, en regardant la khutbah de Cheikh Omar Souleymane, j'ai compris que Khadija, c'était pas une femme comme les autres. Déjà, elle a des caractéristiques communes et rares qu'elle partage avec son époux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de Khadija avant Khadija. C'est-à-dire que Khadija, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, c'est la première femme à avoir porté ce prénom-là. Comme si Allah venait de nous dire, il y a un avant et un après. Ça, c'est une personne qui mérite, qui est rare. On doit s'intéresser à elle parce que on n'a jamais eu de personne de cette envergure avant. Et c'était le cas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le premier être à avoir porté ce prénom-là. Par ailleurs, autre point commun qu'elle partage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, c'est qu'elle n'a jamais adoré les idoles, même dans la période de la jahiliya, de l'ignorance. C'était une personne qui n'investissait pas, qui ne passait pas du temps, qui n'investissait pas financièrement, ni ne passait du temps à faire ce genre de choses. Et l'une des dernières caractéristiques que j'ai apprises en regardant l'épisode de Cheikh Omar Souleymane et qui m'a touchée, c'est qu'elle a une caractéristique, un trait de personnalité qui est son surnom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait El-Amin, le digne de confiance. Ça aussi, on va en reparler. Gardez ce surnom-là en tête parce que c'est vraiment trop, trop beau. Et Khadija, son surnom, c'était Tahira. Et Tahira, ça veut dire pure. Elle était connue pour n'avoir jamais médit, jamais menti, jamais blessé qui que ce soit. Et cela, avant même sa conversion à l'islam. Ouais, déjà, quand on a tous ces éléments-là, on se dit, quelle femme. Et moi, ça m'avait vraiment, comme je dis toujours, quand j'ai terminé, en fait, de voir cette khutbah, j'ai compris qu'il y avait vraiment peu de personnes à qui j'ambitionnais de ressembler, mais que notre maman Khadija, c'est un goal. Franchement, c'est un goal en soi. On la regarde avec espoir, avec amour, avec admiration. On se dit, je veux être comme elle parce que, pas juste pour être comme elle, mais parce que ça semble être un chemin tout tracé pardon, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour être ce serviteur qu'Allah attend que nous soyons, Inch'Allah. Donc, j'ai poursuivi un peu mes recherches et enfin, tout de suite, je me suis dit, faut que j'achète un livre parce que vous savez que moi, j'aime le support du livre, j'aime le fait qu'il reste, j'aime le rapport que j'ai avec les ouvrages. Et là, pour la petite histoire, je suis obligée de vous dire que je suis tombée sur un ouvrage que je ne recommande pas du tout et qui a été écrit par, et là pour le coup je donne la référence pour que vous puissiez vous en éloigner le plus possible, c'est un ouvrage qui a été écrit par Marek Alter et qui a écrit différents ouvrages, il a écrit il me semble sur Aïcha radiallahu anha, donc la seconde épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seconde épouse connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit aussi sur Fatima. Fatima, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fille également de Khadija, radiallahu anha. Et il a une manière d'écrire qui est vraiment gênante, hein. Il y a beaucoup d'orientalisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'orientalisme, c'est un mouvement artistique, je crois, du 19e siècle, pardon si je me trompe d'époque, enfin qui a débuté au 19e siècle et qui était un peu... une fascination de l'Occident pour l'Orient, pour les femmes notamment aussi de cette origine-là, avec une hyper-sexualisation justement des esclaves, hommes ou femmes, des femmes qu'on dénudait bien volontiers. Et moi j'avais commencé à le lire cet ouvrage et je l'ai prêté à ma belle-sœur, que j'embrasse aussi si elle passe par là, et... Elle-même, moi j'étais, je pense, un peu jeune pour avoir ce discernement-là. Et elle m'avait dit, mais Madina, enfin, faut pas lire ça, quoi. C'est très, très problématique ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'en y revenant, je me suis dit, c'est vrai que ça m'avait pas choquée, mais une manière de décrire notre mère qui était parfaitement impudique. Enfin, franchement, c'est ni fait ni à faire. Et je pense vraiment que. En plus, il avait ce côté de romancer, de. rien ou très peu de choses étaient avérées dans ses propos, donc j'avoue que j'ai arrêté ma lecture très très vite et qu'aujourd'hui je la recommande pas du tout. Mais du coup, je me suis vraiment posé la question de comment faire pour trouver un ouvrage qui me permette un peu de sceller, parce qu'on ne scelle jamais vraiment notre savoir, mais d'ancrer un peu le savoir que j'avais retenu sur notre mère à tous. Et là, je suis tombée sur ce livre absolument, je ne vais pas dire magnifique, mais c'est un livre qui est vraiment, pour moi, qu'il convient d'avoir dans sa librairie. Et ce livre, donc, de Claude Dabac. Il faut savoir que cet ouvrage-là, moi, je me le suis procuré dans la plus grande librairie de la ville dans laquelle je vis. Et je trouve que c'est un très bon signe, parce que ça veut dire que, alhamdoulilah, notre savoir, le savoir religieux, se propage. Bon, comme toute propagation, forcément, il y a des désavantages, mais j'ai trouvé que c'était vraiment beau de pouvoir le trouver dans ce type de librairie. Et en plus, quand j'ai demandé à la libraire, à la responsable de rayon, de bien vouloir m'indiquer où se trouvait l'ouvrage, elle m'a dit « Ah, il y en a... C'est le dernier, il y en a déjà plus. » J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon signe et je souhaite vraiment à Claude Dabac beaucoup de succès. Justement, on va parler d'elle avant de parler du livre un petit peu. Donc Claude Dabac, c'est une femme qui est enseignante à l'USH. Elle est traductrice de l'arabe vers le français. Elle est aussi auteure de romans jeunesse. Elle a été aussi un peu enseignante, il me semble, en Tunisie, puis après elle est rentrée en France. Et pour information, elle a également traduit l'encyclopédie de la femme en islam. Donc c'est une personne, c'est une sœur en islam qui est érudite et qui est attachée à la justesse dans la traduction, à la véracité dans les propos, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui se retranscrit, je trouve, beaucoup dans son ouvrage. Si on parle du livre en lui-même, c'est un livre qui est assez petit, hein, dans son format. C'est un livre qui coûte 10 euros, donc qui est quand même assez abordable en termes de prix, alhamdoulilah. C'est un beau livre, hein, c'est un livre... Oui, qui est quand même beau, tant en intérieur qu'en extérieur. Il y a de l'embossage sur le prénom, pardon, de Khadija. Un embossage doré. Un embossage, c'est quand on surexpose, ou je sais pas comment dire ça. C'est quand on met en valeur un élément de la couverture. Donc là, en l'occurrence, c'est le prénom de notre maman, Khadija. Les couleurs sont jolies. On a un bleu, ce qu'on appelle un peu un bleu canard ou du vermante. Et les pages à l'intérieur, elles sont vraiment très très épaisses. Et ça, c'est quand même très agréable. Et même les calligraphies à l'intérieur du livre sont, je trouve, jolies. Au niveau du contenu, comme je vous le disais, c'est un petit livre. Hein. C'est un livre qui est court, qui fait 78 pages. Donc, il se lit très vite. Et moi, si j'ai un terme pour le définir, je dirais que c'est un livre qui est efficace, mais pas expéditif. C'est-à-dire que c'est idéal pour une personne qui n'est pas trop lecture et qui n'est pas vraiment familier avec le fait de lire plusieurs ouvrages dans le mois, voire dans l'année. Et il est aussi agréable pour des personnes qui lisent plus souvent, parce qu'il est, en fait, il est concis. Encore une fois, il n'est pas du tout expéditif, mais il donne pas mal d'informations, mais de manière très bien résumée. Ce qui fait que, il fait 78 pages, mais moi, je ne l'ai pas lu d'une traite, par exemple. J'ai eu besoin de le poser, de réfléchir à certains éléments, etc. Donc, il est court, mais il a beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre, Inch'Allah. Maintenant, on va passer au personnage principal, n'est-ce pas, de l'ouvrage. Et pour ce faire, je vais vous partager certains éléments, certains passages que Claude a cités ou a écrits dans son livre, parce que ça permettra justement de faire le lien entre la qualité de son ouvrage et les qualités de Khadija ibn Khuwaylid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est que on donne à Khadija un espace qui lui est dédié, et je pense que c'est important. C'est-à-dire que on a besoin d'ouvrages qui se concentrent sur des personnes qui ont compté dans l'islam. Je m'explique, l'idée c'est pas de célébrer pour célébrer, mais l'idée c'est de dire que certains personnages dans l'islam ont tellement à nous apporter, sont tellement des sources de méditation, que c'est très important d'avoir aussi des ouvrages les concernant pour qu'on puisse justement méditer sur qui ils sont, sur leurs qualités, leurs caractéristiques, et de se dire, très bien, comment aujourd'hui, moi, je peux les appliquer dans ma vie, dans mon quotidien, pour encore une fois, atteindre le Jannatul Firdaus, les jardins du paradis. Parce que c'est ça, toujours, le goal. C'est-à-dire que c'est bien de célébrer des gens, c'est bien la représentation. Moi, beaucoup m'ont connue en tant qu'autrice de romans jeunesse avec des personnages noirs. Donc, la représentation, c'est quelque chose qui compte pour moi. Je ne le dirai jamais assez. Mais aujourd'hui, je me dis que ça compte parce que parfois, il y a des injustices dans le monde et Allah, il n'aime pas l'injustice. Et c'est très, très, très important que tout le monde soit représenté. Une fois que cette injustice est comblée, il faut aller plus loin et se dire comment je fais pour aller trouver des personnes qui me permettent d'être meilleure, parce que c'est en étant meilleure que je plais à Allah, que je sied à l'image qu'il a de moi, Inch'Allah. Donc rien que pour ça, je trouve que vraiment c'est un livre qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Et ce que j'aime aussi dans cet ouvrage, c'est la vocation qu'il a, à savoir, et là je cite Claude Dabac, de faire le point sur ce que les sources nous apprennent de la vie et de la personnalité de Khadija et de son rôle historique. Il s'agira de retenir ce que les ouvrages les plus sûrs ont conservé pour voir ainsi se dessiner l'image que la civilisation musulmane a gardée de Khadija bint Khuwaylid. Pour le dire autrement, et ça c'est mes mots à moi, on n'est pas sur un roman. Ça, c'est important de le dire. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, et puis moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les livres, j'aime la romance, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine. On aime beaucoup les petites histoires, les petits détails. Ah oui, Khadija, elle était comme ça, c'est trop chouette. Ah oui, je sais pas moi, elle avait telle couleur de cheveux, c'est ma couleur de cheveux. Peut-être que pour certains c'est anecdotique, mais je sais que pour certains d'entre nous, se raccrocher à ces détails-là, ça nous fait encore plus aimer la personne. C'est pas l'objectif de cet ouvrage. L'objectif de cet ouvrage, c'est de se dire qu'est-ce qu'on sait de Khadija concrètement et comment on peut s'en inspirer. Et comment on peut s'en inspirer, c'est tout simplement en découvrant ou en redécouvrant pour certains d'entre vous les qualités, les caractéristiques qui font de Khadija une femme exceptionnelle dont on continue de s'inspirer des centaines d'années plus tard. C'est ça aussi qu'il faut se dire et qu'il faut bien entendre. Quand j'ai des centaines, c'est plus de 1000 ans plus tard. C'est-à-dire que pour beaucoup de musulmanes, que ce soit des femmes musulmanes dites de la trempe conservatrice ou plus libérale, je ne pose pas d'avis, hein, en tout cas pas aujourd'hui, sur ce que je viens de dire ou sur ces différences-là. Mais Khadija, c'est l'une des femmes qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que c'est une femme, comme je le disais plus haut, dans les qualités, dans ce qu'on lui reconnaît de plus, dans les caractéristiques qu'on lui reconnaît le plus souvent, c'est une femme qui travaillait, qui est indépendante. Elle était plus âgée que le prophète Salem, et pourtant le prophète Salem il l'a épousée. Et d'un autre côté, c'est aussi une femme toute sa féminité. Et ça, d'ailleurs, je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'il faut vraiment chercher les informations pour aller voir en quoi Khadija, c'est une femme qui avait cette indépendance-là, qui a été extrêmement... c'est une information qui a été extrêmement propagée et c'est très bien. Mais elle a aussi une féminité. Elle a un rapport avec son rôle de femme, d'épouse, de mère, qui est extrêmement inspirant. Et le livre de Claude, il a vraiment vocation à faire le point justement sur tous ces points-là de sa personnalité pour pouvoir mieux nous apporter, pour pouvoir mieux justement, comme elle le dit, dessiner qui est véritablement Khadija. Et pour ça, il faut effectivement s'éloigner encore plus de ce côté un peu romanesque, anecdotique qu'a essayé de faire Marie Calter. Mais vraiment, je le reprécise, n'allez surtout pas voir... ni vous procurer ces ouvrages parce que c'est aux antipodes de ce qu'on veut. Ce qui est intéressant dans le livre de Claude, c'est que les qualités de Khadija ibn Khuwaylid, elles ne sont pas énumérées dans un chapitre précis. C'est vraiment tout au long de sa vie et de son histoire, ce qui nous fait encore plus méditer en profondeur, je trouve. Et ce qui est toujours intéressant, je trouve, et ce que je trouve très touchant, c'est que donc on apprend à connaître Khadija avant la révélation et on voit qu'elle avait des grandes qualités avant la révélation, durant son veuvage, puisqu'elle a été veuve deux fois avant de se marier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pendant son mariage avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à son décès. Et c'est là qu'on se dit, rien que là déjà, on a de quoi méditer. C'est-à-dire, quelle que soit notre situation dans notre vie, ces qualités-là, elles doivent nous accompagner. Je trouve que c'est très beau. Je vais vous citer maintenant quelques moments clés qui sont rappelés dans l'ouvrage, quelques qualités aussi, pour vous donner, je l'espère, avoir encore plus, pour vous donner encore plus envie de connaître et ou de redécouvrir notre maman à tous. Le premier moment ou la première qualité que je veux citer, c'est la première qualité que je souhaite citer, c'est la grande générosité de Khadija, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment envers sa cousine Halima, qu'elle a nourri, à qui elle a confié du bétail. On se replace dans le contexte, hein, le bétail à l'époque, c'était vraiment source de grande richesse. D'ailleurs, je me permets une parenthèse qui n'était pas du tout prévue, mais dans certaines ethnies, dans certaines ethnies du monde, les bergers sont parmi les castes les plus importantes. C'est le cas chez les Peuls, parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis d'origine Peul, et y a un système de castes, et parmi les castes les plus hautes, il y a ce qu'on appelle les poules, et les poules, c'est vraiment eux qui avaient le bétail. Donc ça fait partie des castes les plus riches de savoir nourrir, de savoir entretenir du bétail. Dans certaines civilisations, c'est encore un signe de grande richesse. Ça aussi, ça devrait nous faire méditer pour la suite de notre vie et sur qu'est-ce qui compte vraiment dans cette vie. Mais bon, c'est un autre sujet pour une autre fois, je referme la parenthèse. Cette grande générosité face à sa famille a fait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam la phrase suivante: certes, Allah m'a gratifié de l'amour florissant de cette femme. C'est beau quand même. C'est-à-dire que là aussi, il y a de quoi méditer. Le rapport à avoir avec la belle famille, vaste sujet, et ça fera, inch'Allah, l'objet d'un épisode à part entière. Mais de voir à quel point œuvrer pour sa belle famille, qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça va dans les deux sens, fait aussi fleurir l'amour dans le cœur de son conjoint, mashallah. Une autre qualité qui revient souvent quand on évoque Khadija, c'est ce mélange de fermeté et de bienséance. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Je vais vous citer un paragraphe du livre de Claude. Khadija bint Khuwaylid ibn Hassad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay était une femme dotée d'une ferme volonté, patiente et bien née, que Dieu avait comblée de noblesse et de bienfaits. Elle était la meilleure lignée du Quraysh en ce temps-là, et aussi la plus distinguée et la plus riche. Tous les hommes de sa tribu auraient souhaité la prendre pour épouse s'ils l'avaient pu. Tous l'avaient demandé en lui offrant des présents. Pour la petite info, juste après, on apprend que c'est le prophète Salam qu'elle a choisi. Mais vous voyez à quel point là aussi il y a de quoi méditer sur le fait que certaines qualités sont à développer en nous pour espérer faire de nous des épouses, encore une fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Ça aussi, c'est important. Pardon, je refais une seconde parenthèse, mais je me dis que peut-être on a du mal avec le rôle d'épouse en tant que femme, parce qu'on le voit trop comme « je suis l'épouse de mon mari ». Et donc, quand le mari déçoit, on arrête d'être une bonne épouse, parce que qu'est-ce qu'il fait, lui, pour moi? Il fait rien. Donc, ça va. À un moment donné, lui aussi, il a qu'à bien agir, et moi, j'agirai bien. Je dis pas que tout le monde dit ça, hein, mais c'est des phrases que j'ai pu entendre. Et en fait, qu'on soit un époux ou une épouse, peut-être que ce qu'il faudrait, c'est se rappeler qu'on est un bon époux ou une bonne épouse avant tout pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui nous demande d'être une bonne épouse. C'est lui qui nous demande d'être un bon conjoint. Et lui, il nous rémunérera toujours de la meilleure des manières. Donc il n'y a pas à douter de cela, et se refocaliser sur ça, ça permet d'aller rechercher ces qualités tant appréciées de fermeté, de bienséance, de féminité, en ne se disant pas je le fais que pour séduire un homme, je le fais que pour garder un homme, mais je le fais pour satisfaire mon créateur. Je referme la parenthèse. Le troisième moment clé que je voudrais citer, c'est vraiment un moment qui pour moi est... Ouais, ça a été un game changer. Franchement, ça a été un moment déterminant dans ma vie à moi, parce que j'avais jamais vu la croyance comme ça. En fait, là où Claude, elle s'arrête beaucoup et où je nous enjoins tous à nous arrêter, c'est le moment et surtout la réaction qu'a Khadija bint Khuwaylid lorsqu'elle apprend la révélation par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour donner un peu de contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation de l'ange Gabriel dans une grotte et il prend peur et il a même très très peur. Il a peur d'être devenu fou, il a peur de la mission qui lui est confiée également et il va se rassurer auprès de son épouse. Là aussi, il y a de quoi méditer quand même. De se dire que ça, bah, on ne peut que penser à cette fameuse Aya qui dit... Et elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Il a peur, et en plus il lui dit, en plus couvre-moi, et elle le couvre deux fois en fait, elle le couvre physiquement, elle le couvre avec les propos que je vais vous citer. Khadija s'adresse à Mohammed. Non, par Dieu, jamais Dieu ne te plongera dans l'opprobre. Tu préserves les liens de parenté, tu soutiens les faibles, tu donnes aux pauvres, tu héberges les hôtes, et tu aides à affronter les vicissitudes de la vie. Dans un hadith, on dit également « Elle crut alors en lui et témoigna que ce qu'il apportait était la vérité. » Ce passage-là, il faut qu'on s'arrête là-dessus parce que ça dit beaucoup de notre religion. Mais avant de s'attarder là-dessus, j'aimerais juste rapporter une autre action de Khadija. C'est que quand le prophète a reçu la révélation, elle est partie chercher ou confirmer les faits, ce qui est arrivé à son époux auprès d'un de ses cousins qui était justement dans une religion monothéiste, qui était chrétien et je crois que c'est Waraqa et Waraqa lui confirme qu'effectivement ce que son époux a dit est la vérité et qu'un prophète même dans la religion chrétienne on indiquait qu'un prophète allait arriver et que ce prophète en l'occurrence c'est son époux. De ces deux événements-là que je viens de vous citer, moi, je tire deux enseignements qui aujourd'hui encore m'impressionnent. Le premier élément, c'est la perspicacité de Khadija comme attribut naturel. C'est-à-dire que dès le départ, elle voit que son mari a peur, elle le rassure, et puis après, elle va aller checker les faits pour avoir une double rassurance. Je trouve que c'est trop fort comme manière de procéder, et je trouve ça très intéressant. Et la deuxième chose... qui, je vous le disais aujourd'hui, m'a vraiment touchée parce que je ne l'avais jamais vue comme ça, c'est finalement le lien extrêmement fort entre la réalité de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est liée aux qualités de véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je le disais au tout début de l'enregistrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son surnom c'est El-Amin, le digne de confiance. En faisant confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut que croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai trouvé ça fort parce que c'est la première fois que je comprenais à quel point, ah mais oui, mais bien sûr, en fait, la croyance en Allah et la confiance en notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, c'est un lien qui est indéfectible, puisque on le dit quand on fait notre shahada, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et sa missive incarnée, certains peuvent dire. Vous voyez, dès la shahada, ce lien-là, il est fait en fait. Et subhanallah, Khadija, c'est le premier individu sur Terre qui scelle ce lien-là en fait, qui lui dit « Mais non, tu ne peux pas te tromper, puisque, encore une fois, jamais Allah ne te plongera dans l'opprobre, tu préserves les liens de parenté, tu soutiens les faibles. » Tu donnes aux pauvres, tu héberges les autres et tu aides à affronter les vicissitudes de la vie. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça vraiment beau et j'avais jamais remarqué à quel point moi-même inconsciemment, c'est un lien qui m'avait parfois sorti de situations difficiles parce que ben comme tout le monde, je peux avoir des baisses de foi. Malheureusement, ça arrive. Et moi, je sais que dans ces moments-là, dans les moments les plus difficiles, sincèrement, subhanallah, la chose qui me faisait dire, mais il n'y a pas à douter, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de me dire, cet homme a existé. Cet homme était loué même par ses plus grands ennemis. Quand on lit, et d'où encore une fois l'importance de lire et de relire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le sait que même ses pires ennemis disaient, ah non mais lui, il n'y en a pas deux comme lui. Sa force, son intelligence, sa gentillesse, c'est pas ça nous qu'on remet en cause. C'est pas son message qu'on remet en cause. Ce qu'on remet en cause, c'est le fait qu'on doive renoncer à nos privilèges. Mais lui, en l'occurrence, et son message, on ne peut pas le remettre en cause. Vous vous rendez compte ? Quand on sait ça, et en plus quand on sait aussi qu'en islam, et c'est ça aussi qui fait que cette région, mashallah, elle est solide, c'est que en islam on est très 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 attaché à la véracité des propos. Quand on regarde même de loin, parce que moi je suis pas du tout spécialisée là-dessus, mais quand on regarde même de loin l'étude des hadiths, les personnes qui ont vérifié les hadiths, qu'Allah ta'ala les agrée et leur fasse miséricorde, sont des personnes qui étaient dotées d'une grande droiture, d'une grande fermeté dans la recherche des conditions pour dire qu'un hadith il est sahih, je crois. C'est vraiment c'est des conditions qui peuvent nous paraître presque dures, mais en même temps c'est comme ça qu'on s'assure de la véracité d'un propos. Et donc aujourd'hui on peut pas venir en 2022 se dire ah, en fait franchement les gens ils ont dit ça sur Mohamed, mais en vrai c'est une personne qui a dit ça, elle le connaissait pas vraiment. Non, c'est pas possible, parce que tous ces faits là, tous ces propos ont été vérifiés et scrupuleusement conservés. Donc en fait, une fois qu'on sait que ça c'est une réalité, l'existence du prophète est une réalité, son incroyable miséricorde qui a été envoyée par Allah Ta'ala lui-même est une vérité, on ne peut pas douter de l'existence d'Allah Ta'ala. Et ce que je trouve trop beau, c'est que Khadija, ça a été la première à avoir scellé ce lien là ce qui me fait dire, quand je médite dessus, qu'en fait finalement Khadija c'est la première croyante, en fait. C'est-à-dire que le prophète sallam, c'est le premier musulman, c'est le premier à être soumis à la volonté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, soumis à sa mission prophétique, au fait d'être un arabe, d'être un serviteur, un adorateur de son créateur. Mais Khadija, c'est la première croyante qui a dit, en plus, bah, pour être un croyant musulman, il faut croire en Allah et il faut sceller ça avec la confiance que l'on a en le prophète et en ses merveilleuses qualités. Je trouve ça trop, 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 trop beau. J'aimerais qu'on s'arrête, en fait, sur cette réflexion-là, pour qu'on puisse un peu, pour le coup, célébrer et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour son infinie sagesse, parce qu'en fait, il nous fait passer un message très fort sur lequel on doit méditer, on doit s'accrocher. C'est le fait que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il doit avoir une place spéciale dans notre cœur, dans notre vie, dans notre quotidien, parce qu'en fait, ce lien, finalement, il est déterminant pour notre foi. Plus on a confiance en le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus on apprend à le connaître, plus on aime Allah. Je connaissais justement un frère en islam qui disait, plus on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on l'aime. Et plus on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on aime Allah. C'est mathématique. Et en fait, ben c'est vrai. Je trouve que c'est vrai. C'est mathématique. Et c'est mathématique au sens de... C'est une logique qu'on peut pas... qui est implacable et qui se vit, en fait. C'est-à-dire que on essaierait de ne pas rentrer dans cette logique-là, qu'on ne le pourrait pas. Et encore une fois, moi je sais que quand j'ai eu des baisses de foi plus difficiles que d'autres, vraiment l'existence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de me réfugier dans ses enseignements, le fait de me ça m'a beaucoup aidé, et le fait de se rappeler que c'est une miséricorde d'Allah, et ben évidemment que ça recrée directement un lien avec notre créateur. Pour terminer, je voulais un peu ouvrir la conversation sur un propos, une pensée plus large que m'a inspiré ce livre et également des discussions avec des amis. C'est justement notre capacité à distiller la confiance. Comme je vous disais, moi je pense que si j'ai eu justement ces baisses de foi, etc., je pense que c'est parce que j'avais tendance à aller chercher du réconfort ailleurs que dans cette formule magique qui est « il n'y a pas de divinité sauf Allah » et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre messager. C'est-à-dire que je pense que j'étais très attirée, très impactée par la personne qui délivrait le message, par la manière dont le message était délivré. C'est indéniable que le message en lui-même me rapprochait d'Allah, revivifiait ma foi. Ça, c'est un fait. Mais toujours est-il qu'il y a quand même un rapport avec la personne qui délivre le message. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont si pédagogues, qui ont une telle manière de vous parler, que si c'est pas elles qui délivrent le message, vous le recevez pas pareil. Et ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose parce que le plus important, c'est le message. Il est évident qu'on est tous des êtres différents. Et donc, comme on est différents, on ne sera pas touché par les mêmes choses. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut se dire, quelle que soit la manière dont le message est délivré, il l'entend, il l'applique, il peut méditer dessus. Nous, à notre échelle, on a différentes personnalités, on a différentes sensibilités, et donc il serait, je pense, ce ne serait pas réaliste de penser que, quelle que soit la manière dont le message est délivré, on le prendra exactement de la même manière. Je pense quand même qu'en fonction de la manière dont il est délivré, on réagit plus ou moins bien, on réagit avec plus ou moins d'efficacité. Donc moi, j'ai été touchée par ça, j'ai été impactée par ça, et bien la conséquence, c'est que on se rend compte que la confiance qu'on devrait totalement donner au message, eh ben on la distille, on la donne beaucoup au message et un peu quand même à la personne qui a délivré le message, ce qui fait que faut faire attention parce que sa confiance en la parole d'Allah et sa confiance en Allah, elle est directement impactée. Alors pourquoi on réagit comme ça? Parce que je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais c'est parce qu'en fait, en tant qu'être de chair, on a un besoin naturel de parler avec quelqu'un qui nous répond dans notre langue. On veut ressentir des émotions fortes. Et comment on fait pour ressentir des émotions fortes? Eh ben, on utilise nos cinq sens. On voit, on entend, on ressent. Et ça, en tant que d'être humain, c'est quelque chose qui est facile du coup de ressentir l'émotion puisque on sait jouer sur nos sens pour faire ressentir des émotions aux autres. Mais la réalité, le combat de cette vie, c'est de se rappeler que les plus grandes émotions, la plus grande confiance, la plus grande sérénité, elles ne pourront nous être apportées que par notre Créateur. Il n'y a que lui qui pourra nous combler. Je méditais ce matin sur le nom d'Allah Al-Wakil, qui est le garant, celui à qui on confie, à qui on se confie, celui sur qui on peut se reposer, et en même temps celui sur lequel on doit s'appuyer pour faire une ascension vers lui, inchallah. Et ça passera que par lui, et ça ne passe que par sa parole. Et distiller sa confiance, ça peut constituer une barrière pour justement arriver à cette relation-là avec Allah. Quand on met des personnes entre nous et Allah, il faut faire très attention parce que justement, ça peut vraiment brouiller un peu notre communication et ce serait dommage. Et comment on fait pour essayer de mettre en place cette communication-là? Eh bien, on s'appuie sur les pieux prédécesseurs, on s'appuie sur les premiers à avoir communiqué avec lui, on s'appuie sur le premier à avoir transmis le message de l'islam, à savoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que moi ça me tient à cœur à chaque fois de parler de Rasulullah, de son épouse, parce que c'est eux vraiment qui vont nous aider à placer notre confiance en Allah en leur faisant confiance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les seules personnes vers qui vraiment on doit se tourner, les êtres de chair, où vraiment on se dit, lui, quoi qu'il me dise, je sais que je ne serai pas déçu. Eh bien, c'est Rasulallah, c'est en lui qu'Allah il a placé sa confiance. En début d'épisode, je vous parlais du surnom qui était donné au prophète, alayhi salatu wa salam, qui est Al-Amin, le digne de confiance. On peut lui faire confiance, on doit lui faire confiance. Et la première, justement, pour un peu boucler la boucle, la première à lui avoir fait confiance, eh bien, c'est Khadija. Qu'Allah lui fasse grande miséricorde. Et justement, pour parler de la confiance que Khadija a placée en lui, je voulais vous citer un hadith à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a eu à l'égard de son épouse. Dans la version de cette narration rapportée par Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à Aïcha, Dieu ne m'a pas donné de meilleure femme qu'elle à sa place. Elle a cru en moi lorsque les gens m'ont renié. Elle m'a fait confiance lorsqu'ils m'ont traité de menteur. Elle m'a aidé de sa richesse lorsque les gens m'en ont privé. Et Dieu m'a accordé d'elle une progéniture dont il m'a privé avec les autres femmes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un propos qu'il a eu lorsque Aïcha, qu'elle lui fasse miséricorde, à montrer un signe fort de jalousie en essayant un peu de montrer que peut-être elle était mieux que Khadija, radiallahu anha, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà sa réponse. Il n'y a pas de meilleure femme que Khadija parce que elle a fait beaucoup pour lui et notamment elle a placé sa confiance en lui. Voilà, je pense qu'on peut vraiment s'arrêter là-dessus tant c'est beau. Évidemment, je n'ai pas cité tous les hadiths, toutes les narrations vérifiées que partage Claude Dabac, l'autrice du livre Khadija la première musulmane. Je vous laisse le soin de les découvrir vous-même. Encore une fois, ce qui est appréciable dans l'ouvrage, c'est l'attachement de Claude à la véracité des faits et sa capacité à s'arrêter sur ces faits justement pour nous inviter à réfléchir sur ce qu'ils disent de l'exemplarité de notre mère à tous et de ce qu'il faudrait faire, non pas pour lui ressembler, mais pour obtenir la satisfaction de notre créateur, parce que c'est ça le but recherché. Il n'y a pas d'autre objectif que celui-ci. Donc je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous permette d'atteindre notre objectif et de cheminer vers lui avec joie, avec sincérité et avec confiance. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala vous préserve. Et puis je vous dis à mardi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez 1 minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doigt. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.
There's a huge party. It was a beautiful day. Everyone is on deck, the band is playing, there's children because it's the summertime, there's adults, people are dancing, they're serving canapés. It's like floating all day long in this gorgeous, gorgeous Atlantic Ocean. It was just fabulous. I just can't tell you what a glorious day it was.
You'll never forget how Cunard makes you feel. Visit cunard.com.